Jean-Yves, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le défi gaulois, ce qui est déjà un titre qui ressemble à un défi, Carnet de route en France réelle. Et alors, avant d'avoir le micro, je posais la question, est-ce que c'est vraiment vous qui l'avez écrit? Vous m'avez répondu, oui, d'habitude j'écris moi-même ce que je publie.
Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui écrivent eux-mêmes leurs livres. Il y a ceux qui les font écrire mais qui les lisent. Et il doit même arriver des cas où ils les font écrire sans les lire. Alors, en ce qui me concerne, j'écris les livres que je publie ou que j'édite, mais en l'occurrence, je me suis d'ailleurs fait aider dans cette affaire par mon épouse qui m'a aidé à rédiger. Donc, vous voyez,
c'est économique,
c'est quand même familial.
Familial, voilà. Et économique, mais c'est pas la peine de payer un mec.
Je l'ai écrit tout de même de ma plume, même si j'ai bénéficié de cette aide familiale.
C'est bien d'avouer quand même.
Voilà.
Mais en général, quand on fait travailler sa femme, on n'a pas de motif de s'en plaindre. Moi, je suis assez content de la mienne aussi. Bon. Vous êtes content?
Moi, je suis très content de cette.
Moi, c'est pareil.
De ce voyage en France réelle, puisque c'est le sous-titre du livre et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire ressentir. C'est qu'il y avait au fond deux France. Il y a déjà eu des distinctions célèbres dans ce domaine. Une France un petit peu virtuelle. Qui est celle des grands médias, et une France réelle qui est celle des comportements concrets, pratiques, qui est très différente. Je prends un seul exemple. On vous explique que dans les grands médias que la France, ça marche au mélange. C'est d'ailleurs le slogan de la marche des beurs il y a maintenant plus de 15 ans.
Oui, d'ailleurs, le mélange, c'est pas bon parce qu'ils sont toujours pas.
Et la réalité, c'est que pour toutes les activités, je dirais, naturelles, spontanées, libres, les gens se retrouvent entre eux et que ce fameux mélange, il ne marche pas dans les activités de loisirs, il ne marche pas dans les activités sportives, il ne marche pas dans les activités culturelles ou les activités spirituelles, il ne marche pas non plus sur des choses qui sont très importantes en France, qui sont la table. J'ai eu l'occasion, il y a pas très longtemps d'ailleurs, d'aller à Vitrolles. Et à Vitrolles d'ailleurs, je le dis, mais malheureusement, ça ne peut pas servir notre ami prêtre, il n'y a plus un tag. Tous les tags ont disparu parce qu'il y a une équipe très forte qui les supprime. Mais évidemment, elle ne peut pas venir à Noisy-le-Grand donner un coup de main. Ce serait quand même pas très convenable par rapport aux règles municipales. Bon, mais à Vitrolles, c'est une ville qui a été très, très, très déracinée. Hein, que bien sûr la municipalité cherche à enraciner, mais difficilement. Mais à Vitrolles, vous avez une grande zone commerciale, une grande zone industrielle. Et où est-ce que les gens se retrouvent entre eux? À la taverne de Maître Canter. Alors vous allez me dire, la taverne de Maître Canter, c'est pas très provençal. Mais c'est là qu'on se retrouve finalement entre Français à manger du cochon. Voilà. Et vous voyez là le clivage qui s'opère spontanément qui s'opère pour toutes sortes d'activités. Moi,
mais pourquoi vous croyez que nous, on va à l'Alsaco?
Oui, bah bien sûr, mais
entre autres.
Mais si vous voulez, c'est pas quand vous dites nous retrouvons à l'Axaco, c'est pas seulement une petite minorité, c'est l'ensemble des Français qui au fond, se retrouvent entre eux pour les activités qui sont libres, évidemment pour les activités qui sont encadrées, qui sont financées par les municipalités, par les collectivités. Là, on a une espèce de brassage obligatoire qui s'opère, mais c'est pas la réaction spontanée. Vous savez, il y a d'autres exemples. C'est le problème de l'école. C'est le problème des logements. Les mêmes qui vont vous dire qu'ils sont tout à fait antiracistes regarderont quand même qui se trouve dans l'environnement de leur logement et n'hésiteront pas à scolariser leurs enfants accord ailleurs que dans l'école la plus proche, s'il s'agit de faire en sorte qu'ils se retrouvent avec des petits-enfants comme les leurs. La France réelle, c'est pas du tout la France qu'on voit, la France que les médias dominants nous cherche à nous imposer tous les jours, c'est tout à fait différent.
En réalité, c'est pas du tout un mélange, c'est une émulsion. C'est-à-dire que tant que ça bouge, ça reste mélangé. Absolument. Quand on arrête, les deux produits se séparent.
C'est une très bonne comparaison.
Et l'huile d'olive continue à peser sur l'eau de source.
Oui, absolument.
C'est comme ça que ça se passe dans l'émulsion.
Oui, tout à fait.
Et un auditeur nous envoie une histoire drôle dont il dit qu'il l'a entendue sur Rire et Chanson. Alors, je vais dire Rire et Chanson, c'est très très bien, mais enfin. La seule excuse pour écouter Rire et Chanson, c'est quand on cherche Radio Courtoisie. Donc vous prenez Rire et Chanson, ensuite il y a une station de rock, ensuite il y a BFM, ensuite il y a une station de rap, et puis ensuite il y a Radio Courtoisie. Je vous le dis, c'est ce que je l'ai fait souvent. Alors il a entendu cette histoire. La police a procédé à une perquisition à la mairie de Marignane, mais comme elle n'a trouvé aucune fausse facture, l'adjoint au maire a été immédiatement arrêté pour mettre fin à cette scandaleuse situation. Non. Ce qui est inattendu dans le prière d'insérer pardon, de votre livre, c'est que vous commencez de la façon suivante. Vous dites de Don Rémy à La Hague, de Rouillac à Paris, de Camembert à Chamonix. Voici un reportage non conformiste à travers la France. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous commencez par Don Rémy. Parce que vous ne passez pas pour quelqu'un de particulièrement, je vais employer un mot grossier, cubéni.
Oh non, ça c'est tout à fait juste, hein. Mais
et pour vous, qu'est-ce que ça représente, Don Rémy?
Néanmoins, Don Rémy, c'est évidemment Jeanne d'Arc.
Oui, mais ça, qu'est-ce que représente Jeanne d'Arc?
C'est une des pages les plus émouvantes et les plus mystérieuses de l'histoire de France. Et par conséquent, j'y suis tout à fait attaché. Et vous savez que nous avons, avec Bruno Maigret et le MNR, nous sommes allés à Don Rémy le 13 mai dernier pour commémorer la fête de Jeanne d'Arc. Et c'était un déplacement tout à fait émouvant, parce que ce village reste, même s'il y a eu une espèce d'implantation,
un vandalisme incroyable,
de musée un peu plus que contestable, ça reste quand même un lieu touchant, émouvant de l'histoire de France. Il faut savoir que, par contre, à quelques kilomètres de Rémy, à Vaucouleurs, qui appartient aussi à l'histoire de France, à Vaucouleurs, il y a maintenant des chiches kebabs, et c'est une ville qui est en train de devenir turque.
Il
y a un contraste entre Don Rémy, qui reste malgré cette architecture très contestable et cette restauration criminelle qui reste un petit village français où il y a la mémoire de notre pays, à quelques kilomètres de là, à Vaucouleurs, il y a le chiche kebab et les tchadors qui sont là. On se demande entre nous qu'est-ce qu'ils viennent faire là, si ce n'est que ça correspond à une sorte d'avancée, puisqu'ils arrivent d'Allemagne vers l'Alsace et d'Alsace vers la Lorraine. Donc c'est par là d'ailleurs que ce n'est pas seulement la quatrième de couverture qui commence par Don Rémy, c'est aussi la première page, puisque c'est à partir de... Je dirais ce contraste cet ouvrage. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire un tour de France sans parler de Don Rémy. Ouais.
Mais l'Hague, ça représente quoi? Le sommet du progrès?
Alors, l'Hague, si vous voulez, pour moi, on est toujours... j'allais dire dans la métaphore religieuse, en l'occurrence, j'appelle ça l'usine du diable. Non pas l'usine du diable, mais c'est une usine diabolisée. C'est-à-dire que ce qui me paraît intéressant dans La Hague, il y a deux choses. D'abord, c'est un site extraordinaire. Le Cap de La Hague est probablement un des plus beaux sites maritimes français, très très sauvage. Donc c'est un très beau site, qui est resté sauvage d'ailleurs. Et puis, il y a cette usine qui est essentielle, puisque à partir du moment où l'industrie nucléaire est un élément de la puissance et de l'indépendance de la France, il faut ensuite recycler les déchets nucléaires. Et donc, on recycle les déchets nucléaires où? À La Hague. Bon, je dis par parenthèse, l'industrie nucléaire française, c'est ce qui permet à la France d'être indépendante des pétroliers, du lobby pétrolier qui soit.
Disons que c'est ce qui devrait lui permettre
de rendre. C'est aussi ce qui est le moins polluant, puisque l'Allemagne, avec ses écologistes, produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, parce que tout simplement, les centrales thermiques, c'est beaucoup plus polluant. Et donc, l'usine de La Hague, elle est nécessaire, puisque une fois que le combustible a été utilisé, il faut le retraiter, le recycler, le transformer. Et donc, toute la pression... écologiste, gauchiste, mais derrière des opérations comme Greenpeace, il y a les intérêts pétroliers américains notamment. Tout l'objectif est de condamner cette entreprise, cette usine, parce que si on oblige cette usine à fermer, eh bien à terme on sera obligé de fermer ensuite les centrales nucléaires. Et les méthodes qui sont utilisées contre cette usine, et c'est en ça que ça m'a paru assez intéressant, les méthodes qui sont utilisées contre cette usine sont les mêmes que celles nous avons à subir, nous qui sommes politiquement les nationaux français, ou ceux qui peuvent défendre une vision traditionnelle de l'Église. Ce sont les mêmes méthodes de diabolisation. Et moi j'ai rencontré un certain nombre d'ingénieurs de cette usine qui vivent sous la même pression médiatique, et parfois même avec la pression sur les enfants à l'école, quand il y a une campagne médiatique qui est menée, généralement pour des choses qui n'ont absolument pas de sens, eh bien, il y a une espèce de malaise, il y a une diabolisation. Et il y a aussi les mêmes méthodes de manipulation statistique. Je raconte là aussi, on a changé d'unité, l'unité de mesure du rayonnement nucléaire, il y en a deux. Il y a le Becquerel et le Curie. Et on a remplacé médiatiquement le Becquerel par le Curie parce que il doit y avoir un million, je parle là de mémoire, donc il se peut que je me trompe dans le...
Enfin, 10 puissance quelque chose.
Mais il y a 10 puissance quelque chose... Becquerel dans un Curie. Et par conséquent, quand on dit l'usine, on a retrouvé dans des Becquerel, tant de Becquerel, c'est affolant, ouais. Alors que vous et moi, simplement en vivant, on émet aussi un certain nombre de Becquerel en nombre très important. Eh bien, on a changé l'unité de mesure de façon à avoir des chiffres faramineux pour révéler une réalité qui est tout à fait négligeable.
Il y a une technique
et donc je consacre un chapitre où j'explique les méthodes de diabolisation, de manipulation de l'opinion, utilisées cette fois non pas contre nous, mais contre une usine, une industrie qui a le tort d'être un élément de puissance et d'indépendance de notre pays, de la France.
Il y a une technique de manipulation médiatique qui est très utilisée et qui est très vicieuse, qui est utilisée notamment en ce qui concerne le nucléaire en France. C'est cette technique qui consiste à s'appuyer sur une exigence tout à fait normale qui est l'exigence de transparence. On dit oui. la presse doit avoir accès à l'information, oui. On doit donner l'information. Alors ça donne ça. Si vous avez un incident mineur dans une centrale nucléaire, on dit, la presse titre « Incident à la centrale de Tartempion, Forges-les-Eaux, n'importe quoi ». Et ça fait les gros titres. Or, le fait que ça soit connu, ça démontre deux choses. Ça démontre d'abord qu'il y a une surveillance pointue qui est exercée, et que comme cet incident n'a pas provoqué de catastrophe, c'est qu'on a le remède, donc c'est la deuxième chose, puis ça démontre une troisième chose, c'est qu'on a le droit d'en parler. Et c'est transformer ça psychologiquement par les médias en une démonstration du danger du nucléaire. Et toute proportion gardée, il y a eu récemment exactement la même manipulation à propos de la tentative d'évasion du tueur de l'Est parisien, c'est Guy Georges, qui a essayé de s'évader de la santé. Tout à fait normal qu'un détenu essaye de s'évader, c'est la moindre des choses. C'est un droit, à mon avis, imprescriptible de tout détenu de tenter de s'évader. Bon. Or, les journaux ont fait des gros titres là-dessus. Et puis, quand on a gratté cette histoire, on s'est aperçu qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, le gars a essayé de s'évader, il est sorti par la fenêtre, il est tombé dans la première cour intérieure, et là, il s'est fait sauter.
Ah oui, autrement dit, même pas qu'il soit allé aussi loin.
Sur la fenêtre, il a été arrêté.
Oui,
donc, ça veut dire que les gardiens ont fait leur boulot parfaitement. Les structures, la sécurité de la centrale, non pas nucléaire, mais enfin de la prison, est parfaitement assurée.
l'impossibilité de s'évader est démontrée, eh bien malgré tout, ça devient un argument d'une espèce de procès médiatique contre les prisons, contre les gardiens de prison qui font pas leur boulot, etc., puisqu'on s'évade de leur prison. Or, justement, on ne s'évade pas.
A contrario, en matière de transparence, il y a deux domaines où nous vivons dans une absence totale de transparence. C'est les chiffres de l'immigration c'est les chiffres de l'insécurité qui sont établis dans des conditions qui manquent totalement de transparence, avec d'ailleurs des décalages tout à fait considérables, parce qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez vu, c'est paru entre Noël et le jour de l'an, donc, ou un peu avant Noël, donc pas un moment très favorable. Les chiffres officiels expliquaient que l'immigration avait diminué, l'immigration officielle, hein, recensée, statistique, avait diminué puisqu'il n'y avait que 185 000 étrangers de plus en 99, ce qui représentait une diminution de l'immigration par rapport à 98, où il y en avait 200 000. C'est déjà très discutable, puisque 185 000 plus 200 000, ça continue à augmenter, mais ce qui était précisé, en bas de page en quelque sorte, c'est que quand on avait publié en 99 le chiffre de 98, on n'avait pas donné 200 000, on avait donné 140 000. Et donc, on révise après, ce qui, au lieu de dire ça a augmenté de 25%, ça permet de dire, vous voyez, ça a diminué. Mais simplement, on a changé la base de données entre
les deux. C'est le vieil argument. Dire,
en matière de transparence, il est évident qu'il y a, du côté des statistiques gouvernementales, que ce soit en matière d'immigration ou d'insécurité, ou même d'emploi d'ailleurs, il y a un manque de transparence totale. Il y a un camouflage, statistique.
C'est le trucage qui consiste à dire l'augmentation diminue. Parce qu'entre 98 et 99, il y a eu 20% d'augmentation. Entre 99 et 80 et 2000, il y a eu 19% d'augmentation. Donc l'augmentation diminue.
Mais là, c'est encore plus vicieux, parce que pour montrer que l'augmentation diminue, il avait fallu en plus réviser les chiffres, de l'année précédente. Ouais. Alors, je cite des exemples. Alors, quand on parle de transparence, il est évident que c'est sûr que les exigences de transparence en matière de nucléaire, c'est-à-dire une bonne chose, parce que c'est relativement dangereux.
Encore que les gens.
Pas maîtrisé.
Moi, je n'y comprends rien. La transparence, ça veut dire quoi? Comprenez? Que les informations soient transparentes, que l'information soit transparente sur des sujets dans lesquels on a un minimum de compétences.
Oui,
bon, c'est normal. Mais franchement, je ne connais strictement rien, mais vraiment rien du tout au nucléaire. Donc, quand on me dit l'information est transparente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va me présenter des graphiques auxquels je ne comprends rien, des colonnes de chiffres auxquelles je ne vois goutte. Donc, ça n'a aucun intérêt en réalité. Là aussi, il y a une forme d'imposture
qui consiste à dire,
mais l'information est disponible. Ben, je veux bien, mais c'est à peu près comme de lire le journal officiel pour savoir quelle est la législation dans une matière quelconque. Quand vous aurez lu toute la collection du journal officiel depuis son premier numéro, vous ne serez pas plus ferré sur la législation française qu'avant. Donc, tout ça procède beaucoup d'une espèce d'imposture permanente, une espèce de langage menteur, comme ça consiste. Alors, à dire. Il y a des obligations. Il faut être solidaire, il faut être transparent, il faut être, comment dit-on, enfin, il y a plein de choses qu'il faut être sans que ça ait le moindre sens.
Alors, en tout cas, vous voyez, pour moi, la Hague, c'est à la fois la beauté de nos côtes, le bocage. C'est un paysage de bocage protégé, alors que malheureusement, il y a beaucoup d'endroits, notamment dans l'Ouest, où le bocage a été détruit.
Avec des voies de tête.
C'est un très beau paysage, très français, et puis c'est aussi une usine quand même technologique très moderne et parfois un petit peu assiégé et diabolisé dans des conditions que malheureusement nous connaissons tous. Voilà.
Donc, quel est le plus bel endroit alors pour vous? Je pense à Chamonix parce que
Pour moi le plus bel endroit c'est Chamonix. Voilà. Du point de vue des beautés naturelles, pour moi le plus bel endroit c'est Chamonix. Je crois d'ailleurs que c'est il faut savoir que Chamonix, c'est le plus bel endroit du monde pour l'alpinisme, en raison de la qualité de son granit, hein, puisque ce qui fait la qualité d'une montagne, enfin du point de vue de l'escalade et du point de vue aussi de sa beauté, c'est la qualité du rocher. Donc pour le granit de Chamonix est connu dans le dans le monde entier. Et c'est très beau. Il y a d'ailleurs des écarts d'altitude tout à fait considérables, puisqu'à Chamonix, vous êtes à 1000 mètres. Vous avez au-dessus de vous les aiguilles qui sont à 4000 et le Mont Blanc qui est à 4008 sur une toute petite, une étendue tout à fait extrêmement petite. De ce point de vue-là, les écarts d'altitude sont plus rapides, plus radicaux que dans l'Himalaya, où il y a une autre immensité, bien sûr.
Vous n'avez pas l'impression aussi que cette situation privilégiée d'un endroit comme Chamonix finit par détruire le caractère exceptionnel de cet endroit, parce que de plus en plus les voies sont pré-tracées, de plus en plus les gens abandonnent les pitonnages, etc.
Ah oui, ben...
Ça finit par devenir de la montagne à vache à la verticale.
Non.
Quoi. Pas encore.
Non, parce que si vous voulez, justement... La montagne, ça c'est un des grands problèmes qui n'est pas compris, notamment quand il y a des procès contre des guides de montagne ou des choses de ce genre. Une chose qui n'est pas comprise, c'est que la montagne, c'est un monde sauvage. Et par conséquent dangereux. C'est-à-dire que c'est vrai que Chamonix, il y a un côté, vous prenez le téléphérique, hein, c'est vrai que vous prenez le téléphérique, c'est un peu le métro, hein, une sorte de métro, et puis vous arrivez dans un autre monde. Et cinq minutes après, vous êtes dans un monde sauvage où il y a des dangers objectifs que vous ne supprimerez jamais, qui sont les cérates qui peuvent tomber, qui sont les ponts de neige qui peuvent s'effondrer, ou si vous êtes sur des rochers, les pierres qui tombent. Alors comme à Chamonix, c'est du bon rocher, généralement...
Ils tombent moins pierres que d'alpinistes.
Non, les pierres ne tombent pas en petite quantité, mais quand elles tombent, c'est un gros paquet. Voilà. Alors il est évident que, rassurez-vous, ça n'est pas la montagne n'est pas un monde pasteurisé, parce que la nature n'est pas pasteurisée.
C'est le monde de l'extrême.
Voilà.
On est d'extrême droite comme on est d'extrême
gauche. Oui, bah, ça, si vous voulez, je fais un peu une comparaison, parce que ce qui m'a frappé, c'est que le mot extrême est tout à fait valorisé, majoratif dans le domaine du sport. L'alpinisme extrême, ce que je ne prétends pas faire, rassurez-vous, c'est considéré comme remarquable. En matière de bateau,
de voile,
il n'y a rien de mieux que d'aller tourner autour des icebergs dans l'Antarctique, ce qui est de la voile extrême avec des bateaux extrêmes, hein, comme pour le Vendée Globe ou pour la course. Enfin, je préfère dire la course.
Je n'ai pas encore compris pourquoi ils nous appellent.
Bon,
c'est peut-être le seul moyen de parler de la race.
Oui, sans doute, peut-être. Bon, c'est majoratif.
D'ailleurs, on pourrait.
Et puis alors, en politique, alors extrême, ça serait épouvantable. Et je dis d'ailleurs, nos idées ne sont pas extrêmes.
Non.
Nos idées ne sont pas extrêmes, elles sont dissidentes. Elles sont dissidentes par rapport à, je dirais même pas l'opinion dominante, mais par rapport en tout cas à ceux qui font l'opinion, par rapport aux puissances dominantes. Et c'est vrai que s'il y a une chose qui est extrême dans notre combat politique, c'est qu'on le fait dans des conditions relativement difficiles, extrêmement difficiles dans un monde. C'est ça qui est extrême. C'est pas nos idées qui sont extrêmes. Et en tout cas, je dis, c'est assez amusant. Vous dites de quelqu'un d'extrême droite, c'est pas bien. Par contre, si c'est un skieur extrême ou un voileux extrême, on trouve ça très bien. Voilà. Alors j'ai fait un petit développement sur ce sujet. J'espère qu'il vous a plu, Serge de Beckett. Si c'est le cas, j'en suis ravi.
Bah écoutez, ça tombe bien. Quand vous vous êtes promené en France, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, je vais poser une question un peu brutale, que le peuple français est de plus en plus abruti?
Bah, écoutez,
je parle pas de vous, Victoria, c'est pas la peine de prendre cette terre à choquer.
Le peuple français, si vous voulez, il est un petit peu sous camisole médiatique.
Oui, c'est ça que je veux dire. Quand je dis abruti, c'est pas
un peu... On a eu des formes. Il y a eu, si on prend les totalitarismes d'il y a un siècle ou trois quarts de siècle, au fond, c'était une époque où on enfermait les fous. Et où on mettait les dissidents au goulag. Bien. Maintenant, on n'enferme plus les fous, on les met sous camisole chimique, et on ne met plus les dissidents au goulag, on met tout le monde
sous camisole médiatique.
Et il est évident que je pense que Staline, qui n'avait pas des moyens de propagande finalement extraordinaires.
Le maréchal Staline.
Il mettait son portrait à l'entrée des villes. Bon, il y avait le gars qui faisait la propagande dans la cage d'escalier, le gars qui faisait la propagande à l'usine. Bon, ça prenait pas tellement de temps. Tandis qu'aujourd'hui, avec la camisole médiatique, c'est 2 ou 3 ou 4 heures par jour. Alors, il y a ça. Mais à côté de ça, les réactions de fond restent les mêmes. Voyez-vous, moi, je le vois, parce que mon Tour de France, c'est pas uniquement un Tour de France touristique. Hein.
Oui, non, c'est mais c'est pas pour ça
assez que largement
c'est
un Tour de France militant. Mais bon, moi, je le vois, je distribue un document électoral, bon, à Paris, dans un quartier comme le 15e, qui est plutôt, bon, encore relativement protégé. Bon. Et je vois des gens, des mères de famille, très dignes, très bien, qui prennent l'air un petit peu dégoûté. Et si je peux arriver à capter, ne fût-ce que quelques secondes, leur attention, je leur dis, la petite fille là, ou le petit garçon, vous seriez d'accord pour qu'il aille à l'école dans le 18e arrondissement? Oui, il ne faut pas taper. Hein.
Oui, il faut mieux éviter.
C'est ce qu'on appelle un incident de risque 2 dans une centrale nucléaire.
Oui, c'est ça.
Bon. Et à ce moment-là, il y a la réaction de repli. Ah non, pas ça.
Oui.
Hein? Et vous voyez tout de suite le décalage entre un espèce de vernis imposé, parce qu'il est quand même imposé tous les jours, et puis ce qu'on pourrait appeler, en prenant un mot du jargon des économistes, les fondamentaux, quoi, les choses qui touchent quand même à vous-même et à vos enfants. Et je le raconte aussi quand je fais campagne à Villeneuve-la-Garenne, une ville populaire du nord des Hauts-de-Seine. Je voyais les gens dans les zones les plus difficiles, vous leur demandez quel est votre problème, bon, ils vous parlent tout de suite du problème. Et dans les zones qui l'étaient un peu moins, dans les zones pavillonnaires, bon, si je frappais à la porte, on me disait que ce problème, non, ça va bien, etc. Et à ce moment-là, je posais tout de suite la question de l'endroit où étaient scolarisés les enfants. Et là, c'était imparable.
Jeanne d'Arc, Saint-Timoléon.
Voilà, c'était l'église, c'était l'école, l'école privée de Neuilly ou de Saint-Denis, puisque c'est entre les deux. Et donc, non, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y avait l'école ou le collège à 200 mètres. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème avec l'immigration. Mais les enfants, on les scolarise quand même. On les scolarise ailleurs.
Mais on voit ça maintenant d'une façon. Enfin, on l'entend, en tout cas. J'écoutais hier soir Europe 1, où il y avait un débat avec les auditeurs sur l'insécurité. L'insécurité grandissante, etc. Le matin, c'est frappant d'ailleurs, ça, parce que c'est la première fois que j'assiste à ce genre de choses, le patron de la SNCF était venu s'exprimer pour expliquer qu'ils avaient fait des bénéfices. C'est la première fois depuis 15 ans que la SNCF
oui,
fait des bénéfices.
Voir comme
on leur a
pu leur affaire, d'ailleurs. Comme
on leur a supprimé toutes les dépenses, effectivement, ça finit par faire des bénéfices.
Oui.
Et alors, en tout cas, on lui disait, alors le problème de sécurité. Alors, il dit, ce que vous appelez la sécurité, et que nous appelons la sûreté, alors déjà on rentre la sûreté des personnes, on rentre dans un débat sémantique, donc ça y est, on est paumé. Enfin, la plupart des gens sont paumés, parce que pourquoi pas parler de sécurité? Parce que pour la SNCF, la sécurité, c'est que les trains ne déraillent pas.
Oui,
bon.
D'accord.
Alors
ça,
la sûreté,
ça marche,
c'est
à peu près.
Voilà, en gros.
Ouais.
Sauf quand ça marche pas, ça s'entend quand même assez brillamment.
Oui.
La sûreté, c'est le fait qu'on soit pas attaqué par les gens dans le train. Et donc, il expliquait que la sûreté, réellement, il y avait une augmentation des attaques, des agressions, de la délinquance, de la violence dans les trains. C'est la première fois que j'entends le président de la SNCF reconnaître ça. Et il expliquait ce qu'il faisait, comment il tentait de trouver un remède à ça. Il terminait en disant, mais ça, au fond, on ne peut pas le faire sans la gendarmerie, sans la police. Bon. Donc, déjà, on assiste à un phénomène auquel on n'avait jamais assisté, enfin, en tout cas, on n'a pas assisté depuis très 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 longtemps, c'est la reconnaissance officielle d'un état de délinquance endémique, de violence endémique en France. Et toute la journée, il y a eu des débats sur ces questions, et le soir, le débat avec les auditeurs. Eh bien, ils sont arrivés à parler pendant 2 heures de l'insécurité en France, de la délinquance dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, de la délinquance dans les rues, dans les cités. Pendant 2 heures, on a eu des témoignages de gens qui téléphonaient en disant « j'ai été attaqué ». Une fille qui appelle en disant « j'ai été attaqué, tentative de viol ». Mon fils a été attaqué d'une femme, mon mari a été attaqué, etc. Dans le train, dans le métro, dans l'autobus, dans la rue, dans la voiture, etc. Pas une seule fois, le mot « immigration » n'a été prononcé.
Bah, écoutez, c'est extraordinaire. C'est très simple. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas traiter correctement le problème de sécurité, c'est qu'il y a un interdit qui pèse sur l'une de ses causes et de ses origines majeures. Et je dirais presque la cause unique, parce que aujourd'hui, vous avez effectivement une délinquance immigrée très forte, qui en plus sert de modèle à une délinquance non immigrée induite. Hein? Parce que c'est quand même le modèle qui est...
C'est-à-dire, elle sert de modèle, elle sert... Comme elle est à peu près impunie.
Modèle, bien sûr, comme elle est impunie, et qu'elle est finalement assez, d'un certain point de vue, présentée de manière assez majoritative, qu'on lui trouve toujours des excuses, elle s'étend. Et le phénomène de la SNCF que vous décrivez, c'est la sortie des zones de non-droit des cités. C'est-à-dire l'extension des zones de non-droit sur les grands réseaux de communication. Alors on a vu ça d'abord avec les trains de banlieue ou les RER, et maintenant ça s'étend aux grandes lignes, et on peut d'ores et déjà savoir quel va être le prochain problème. Ça va être, c'est quand même dommage parce que c'est une très belle réalisation technologique, le TGV Marseille-Paris. Eh bien, il y a des endroits où il va poser des problèmes, et le TGV qui jusqu'ici fonctionne quand même de manière régulière, eh bien, il ne fonctionnera plus de manière régulière parce qu'il y aura des événements de délinquance. Il y en a eu d'ailleurs pour Saint-Sylvestre.
Voilà, j'allais dire, ça c'est un témoignage extraordinaire.
Les trains ont été envahis, et à partir de ce moment-là, les trains n'ont pas pu partir parce que ça posait, pour parler comme M. Gallois, le problème de sûreté posait un problème de sécurité, puisque si le train est surchargé, il y a un problème de danger par rapport à sa circulation. Et donc, il y a eu une désorganisation du réseau à cause de ces problèmes.
Et on retombe dans l'éternel système.
En Ile-de-France, le réseau ferré, que ce soit RER ou SNCF, est de plus en plus souvent désorganisé, avec des retards de plus en plus nombreux, un petit peu pour des raisons techniques, mais essentiellement pour des raisons qui tiennent à l'insécurité. Parce que tout incident, eh bien, amène un retard qui lui-même, un système de type chaotique, amène toute une série de retards en chaîne.
Mais l'histoire de la Saint-Sylvestre, moi, me paraît absolument emblématique, parce que c'est une disposition qui est prise... C'est tout à fait emblématique de la façon de la question des effets pervers.
Oui.
On dit, la nuit de la Saint-Sylvestre, les gens qui ne respectent pas la législation conduisent en état d'ivresse. En gros, c'est ça. Donc, il faut les dissuader de conduire, on va leur donner des trains gratuits, parce que ça revient à ça. Bon. La SNCF communique, comme on dit maintenant, sur cette question. En réalité, c'est une imposture, parce que il se trouve que les billets qui étaient proposés à 100 francs aller-retour étaient pratiquement inutilisables, étant donné que la plupart des trajets qui étaient concernés ne permettaient pas de partir et de rentrer dans les temps limites. Et d'autre part, si on ne pouvait pas rentrer dans les temps limites, on n'avait pas le droit de prendre un billet aller. C'est-à-dire qu'il fallait un aller-retour avec réservation pour avoir le droit au billet à 100 francs. Si on ne pouvait pas avoir la réservation pour le retour, on ne pouvait pas avoir de billet à prix réduit pour l'aller. Déjà, c'est une imposture, c'est une folie. Mais ça suppose que c'est fait pour résoudre un problème de société qui est le refus des gens, le refus de certaines personnes d'accepter les limitations d'alcoolémie et de vitesse. Donc, au lieu d'utiliser la sanction, on utilise la carotte. On dit aux gens, on va vous, comme vous ne voulez pas ne pas rouler en état d'ivresse, on va vous faire voyager dans le train gratuitement. Le résultat, c'est ce qui s'est passé, Et ce qu'ont découvert la plupart des utilisateurs de cette opération, c'est que maintenant, on peut prendre le train gratuitement. Il suffit d'être assez nombreux pour ça.
Oui,
ce qui veut dire que quand il va y avoir un match de foot à Paris, Marseille, PSG, OM, les gars de Marseille ne vont pas s'emmerder. Ils vont monter dans le train, et quand il va y avoir 800 supporters de l'OM dans le train, et que les contrôleurs vont arriver en disant vos billets, les gars vont leur dire, les billets, on n'en a pas, puis je n'étais pas content, c'est exactement le même prix. Donc on va bloquer le train. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir dans ce train 40 connards qui auront payé leur billet
absolument,
plein pot
absolument.
Et qui vont attendre.
Mais
voilà.
Ça, c'est un phénomène. Je pense que beaucoup, malheureusement, beaucoup de, d'électeurs ou de citoyens n'en sont pas conscients. C'est l'éviction de ceux qui payent au profit de ceux qui ne payent pas. Et ce qu'il faut voir, ce qui est grave dans la situation actuelle, que nous on voit bon, dans les assemblées locales, dans les assemblées régionales, notamment, dans les assemblées municipales, d'où l'importance d'ailleurs des élections municipales où nous serons très présents le 11 mars prochain, c'est que on ne se contente pas de laisser faire un certain nombre d'évolutions nocives, on les finance. C'est-à-dire, je pense que les électeurs, les contribuables ne se rendent pas compte qu'une partie de ce qui leur pourrit la vie est financée avec leur argent. Je prends un exemple.
Là, c'est typique.
À la région Île-de-France, on nous a proposé de financer le festival, le festival mondial de hip-hop. Le hip-hop, c'est quoi? Peut-être que tous les auditeurs de Radio Courtoisie...
Si, on en parle tout le temps.
Le hip-hop, c'est la version...
Franck, c'est un fan du hip-hop.
C'est la version dansée du rap. Le mouvement hip-hop, c'est le mouvement rap. Rock Against the Police est un mouvement qui est violent à la fois dans l'expression musicale et violent dans les paroles, raciste anti-français, raciste anti-blanc, qui se revendique comme tel. Eh bien... on nous a proposé à la région Île-de-France de financer cela. Quand je dis on, c'est qui? On nous a proposé, en l'occurrence, c'est la majorité qui n'est pas majoritaire d'ailleurs, mais c'est l'exécutif socialo-communiste. Bon. On a livré une bataille avec mes amis du MNR. Et nous avons obtenu un vote négatif sur cette affaire.
C'est-à-dire là, nous, c'était pas du petit sou, c'était,
il y en avait pour... Oh, il y avait pour près d'un million, hein,
c'est ça, près d'un million.
On a obtenu un vote négatif puisque le MNR, plus le FN, plus en l'occurrence le RPR, l'UDF et démocratie libérale, c'est plus que la gauche.
C'est-à-dire la majorité énorme.
Et alors, on a vu cette scène extraordinaire, dès que ce vote a été acquis, le président, le vice-président communiste est sorti comme d'une boîte de sa chaise et s'est tourné vers les gens du RPR en disant « c'est pas correct, c'est pas correct ». Ouais. Extraordinaire, c'était un vote. Bon, on a eu l'incident. Eh bien, un mois après, on nous a proposé de revenir sur la subvention. Alors j'ai été copieusement injurié sur les sites de hip-hop, mais enfin ça c'est pas gênant, on nous a reproposé la même subvention.
Comme ils savent pas lire de toute façon,
la
ça
même
veut
subvention,
pas dire beaucoup.
Nous avons évidemment revoté contre, nos amis du FN ont revoté contre, l'UDF a revoté contre, démocratie libérale a revoté contre, et le RPR s'est abstenu parce qu'en échange ils avaient négocié la subvention d'une association de full contact. Hein, c'est-à-dire de boxe...
C'est les mêmes d'ailleurs en sortant du rap, ils vont faire un peu de full contact,
pour
les arrêter.
Pour une association, semble-t-il, proche de M. Seguin dans le 18e arrondissement. Voilà. Je n'invente pas le truc. Hein. Il y a des pages et des pages de procès-verbaux qui racontent ça. Eh bien, il est sûr quand même que je pense qu'il y a peu d'électeurs RPR, qu'il en reste encore malheureusement, semble-t-il, qui imaginent que les gens qu'ils envoient les représenter... Bon, non seulement ne lutte pas contre le rap et le hip-hop, mais le subventionne avec leur argent. Je cite cet exemple.
Bien sûr,
mais je pourrais en citer des dizaines, des centaines d'autres. Et dans les municipalités, vous avez bien vu que la bataille qui a été menée en 95, 96, 97 contre les municipalités nationales, que ce soit à Toulon, à Orange, à Marignane ou à Vitrolles, donc je crois qu'il est essentiel qu'elle puisse être réélue toute en 2001, eh bien la bataille qui a été menée, ça a été de dire ils suppriment des subventions. Ben oui, ils suppriment des subventions et ils avaient raison de supprimer des subventions à des associations non seulement inutiles, ce qui après tout ne serait pas très grave, mais nuisibles.
Mais je voyais tout à l'heure dans le métro...
dans les dépenses publiques, je distingue trois catégories, deux catégories de dépenses publiques.
Dépenses superflues,
inutiles
et nuisibles.
Enfin, il y a quand même quelques dépenses utiles. Là, je suis un peu polémique. Mais il n'y a pas que des dépenses inutiles. Il y a aussi des dépenses nuisibles. Et ça, c'est beaucoup plus grave.
Je regardais tout à l'heure dans le métro une affiche pour la place de cinéma à 18 francs. Je ne sais pas comment ça marche. On paye 18 francs, puis on va au cinéma toute la journée. J'ai pas bien compris comment ça marche. Enfin, la mairie de Paris vous offre le cinéma à 18 francs. Mais c'est une imposture, c'est un mensonge. Ce n'est pas la mairie de Paris qui offre, c'est les contribuables parisiens.
Oui,
et je connais des contribuables parisiens qui ne vont jamais au cinéma. Et bien, ces gens-là, on prend leurs impôts pour leur faire payer les places de cinéma à des gens qui passent leur vie.
Je vais vous dire, ça en plus un effet déstructurant, c'est-à-dire que ça introduit le zapping au cinéma, c'est-à-dire cette espèce de bougeotte permanente qui est quand même un élément de déstructuration mentale, indépendamment du contenu qu'on peut voir, c'est-à-dire bon, alors de même qu'on peut, zapper, donc on perd un peu, enfin beaucoup de jeunes perdent l'habitude de rester, ma foi, un quart d'heure, une demi-heure, une heure et demie pour regarder du début jusqu'à la fin une séquence, une émission ou un film, eh bien le phénomène est en train de se passer, puisque vous payez avec un prix bon qui peut être, je sais pas, 18 francs par jour ou 100 francs par mois, je n'ai pas exactement les choses en tête, mais vous pouvez voir autant de films que vous voulez. Et donc il y a une tendance à rentrer, c'est ce qu'on voit dans les grands multiplexes, qui sont quand même la grande surface du cinéma, si on peut transposer. Vous rentrez. Vous avez des gens qui rentrent voir un film, et puis 10 minutes après, ils vont avoir un second, etc. Ouais. Et ça, c'est un élément, quel que soit le contenu, je dirais, c'est un élément de déstructuration supplémentaire.
Le docteur Planté
est financé avec l'argent des contribuables.
Le docteur Planté a travaillé là-dessus, travaillé, réfléchi sur ces questions depuis longtemps, et il faisait remarquer une chose, c'est qu'il y a quelque chose, vous parliez tout à l'heure de diabolisation, là, il y a quelque chose de totalement démoniaque dans cette espèce de mouvement vibratoire permanent qui fait que les gens chez eux zappent à la télé, ils zappent au cinéma. Quand ils sortent, on voit les jeunes qui se baladent en patins à roulettes, qui font des groupes. Quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc qui consiste à tous les vendredis soirs à faire circuler 15, 20 000, 30 000 écervelés en patins à roulettes dans les rues de Paris? À quoi ça correspond? À quelle nécessité sociale? À quelle nécessité politique? À quelle nécessité humaine, culturelle, civilisationnelle est-ce que ça correspond? C'est des comportements de fous furieux. De partir du point A pour revenir au point A après avoir patiné en groupe à 30 000 pendant 3 ou 4 heures, mais c'est des trucs de dingue.
Il y a une tendance d'ailleurs qu'on voit très bien dans la campagne de Paris, en tout cas s'agissant des candidats à qui on donne la parole, c'est qu'ils sont fascinés par une catégorie d'ailleurs très étroite de clientèle électorale qu'on appelle le bobo, c'est-à-dire le bourgeois bohème. Et alors vous interrogez Delanoë ou Seguin, de toute façon ils répondent la même chose sur les problèmes de circulation à Paris, ils vont vous parler de la patinette. Alors la patinette, c'est très comique parce que c'est quand même pas un truc très efficace, et c'est un truc dont on sait depuis très longtemps qu'en plus ça vous met la colonne vertébrale de travers. Ça fait rien, et puis c'est une mode. C'est une mode, parce que dans 3 mois ou dans 6 mois, la patinette, ça sera terminé. Un vrai programme politique, il doit parler de la patinette. Un vrai programme politique sur Paris, il doit dire qu'est-ce qu'on va faire pour garder à Paris son rôle de capitale. De capitale
plus de patinage
européenne et capitale française d'abord, capitale européenne, capitale mondiale, et qu'est-ce qu'on doit faire pour garder à Paris son caractère français? C'est ça les vrais enjeux. C'est pas de savoir si on va faire des couloirs à patinette entre le couloir à scooter et le couloir à bus.
Mais avant c'était Paname et Tir Saint-Cesc, maintenant c'est patin et tapin. Jean Sonnet, vous avez écrit un livre qui s'appelle Mea Culpa, qui est, le titre indique bien qu'au fond, je vais résumer, mais on sent bien que vous vous en voulez, vous considérez que vous avez commis une faute en croyant à la démocratie tempérée. Voilà, on peut dire ça, comme ça, aussi brutalement. Quand vous entendez Le Gallou, ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion?
Écoutez, ça me touche beaucoup parce que je crois que M. Le Gallou a écrit, s'adresse à tous ces lecteurs qui sont des gens du peuple de droite, qui sont les gens que j'ai essayé moi aussi de toucher. Et alors il parlait de sa campagne électorale, des municipales, il va sur les marchés naturellement. Je dirais que c'est un classique. Hein. Mais vous avez raison, c'est là qu'on peut rencontrer encore nos compatriotes, et spécialement ceux peut-être du peuple de droite qui nous intéressent, qui sont la majorité des Français, majorité qui est complètement prostrée, qui ne sait plus vers qui se tourner pour retrouver confiance en l'avenir. Et moi justement, je me suis adressé à tous ces gens, à cette dame là qui vous parle de son petit gars, enfin de son enfant, en disant je voudrais pas qu'il aille à telle école, etc. Je crois que tout ça, vous avez défini, il y a des fondamentaux qui sont faciles à identifier. Encore faut-il que les Français qu'on leur propose, et qu'on passe par-dessus les antennes, les médias officiels et la désinformation, etc., que nous subissons depuis maintenant, on peut dire 1980, 81, depuis François Mitterrand.
C'est pas facile.
C'est pas facile. Alors,
trouver ces gens-là. S'affranchir des médias, c'est assez facile, il suffit de pas y aller.
Mais alors, j'ai écrit moi ce livre, mais bon, le problème c'est que ce livre se vendra pas, naturellement, parce que c'est très difficile, donc, pour toucher ce public-là. Mais surtout, j'ai voulu faire, c'est tendre la main aux gens de la droite nationale.
Quand vous dites ne se vendra pas, il faut quand même préciser, parce que, si vous me permettez, le mot est mal choisi.
Je suis sans illusion, monsieur de Becquerel.
Le mot est mal choisi.
Puis moi, je m'appelle pas monsieur Le Gallou, je suis pas connu, si vous permettez, je suis quelqu'un de la base. Hein.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est un livre qui risque de ne pas circuler. Je peux apporter un témoignage sans mettre personne en cause, c'est que vous avez essayé de proposer votre livre à des librairies, disons, de la famille, et on vous a dit, écoutez, ça correspond pas exactement à ce qu'on a l'habitude de proposer, parce que c'est pas assez de droite, quoi. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage, parce que même chez nous, on se met à voir les attitudes des autres.
Voilà.
On se met à dire, c'est pas un livre de chez nous, donc on va pas le vendre. Il faut toujours le mettre dans sa vitrine, ça prendra pas beaucoup de place, et en plus, c'est une approche intéressante de la réalité quotidienne. C'est-à-dire, si on commence à se comporter d'une façon stalinienne en disant c'est pas un livre de chez nous, on le vend pas, je trouve ça un petit peu dommage, quoi.
En tous les cas, c'est un livre qui part, si vous voulez, qui est écrit par quelqu'un, par un citoyen de base, hein, du centre droit, si vous voulez, hein, de la famille, de la grande famille du centre droit, et qui est une main tendue mes amis du MNR me disaient dans ma commune, vous êtes à la moitié du guet, après m'avoir lu, ils m'ont lu d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai dit je suis pas à la moitié du guet, je suis du même côté du gay que vous, mais j'ai pris un autre gay, mais nous sommes du même côté, et c'est justement ces fondamentaux qu'il faut retrouver. Moi, j'ai écrit justement sur les grands tabous idéologiques qui nous sont assénés par le terrorisme intellectuel que nous subissons maintenant avec Mitterrand, avec Jospin, et ça continue, qui sont donc l'immigration, les problèmes liés à l'immigration, au racisme, à l'insécurité, à la violence, à l'éducation pour nos enfants, à la justice, à l'avenir de la nation, à la citoyenneté et supplémentairement à la place de la France en Europe, et surtout quelle Europe également nous voulons pour demain. Certainement pas l'Europe fourre-tout, que nous propose
la question que j'ai envie de vous poser à ce moment-là, c'est, vous avez entendu Jean-Yves Le Gallou, puis vous connaissez le programme de MNR, le programme du FN, vous connaissez le programme de la droite nationale en général, les positions de la droite nationale. Alors,
pourquoi vous n'êtes pas au MNR?
Mais pas vous personnellement, mais qu'est-ce qui retient des gens comme vous? Vous avez quand même quelques millions en France à être des centristes de bon sens, je dirais, des gens qui aiment leur pays, qui n'ont pas envie de le voir s'effilocher, partir en petit bout ou être occupé. Et qu'est-ce qui, selon vous, retient tous ces gens-là de dire, faisons au moins, selon la vieille expression communiste, un bout de chemin ensemble?
Je crois que nous ne sommes pas quelques millions, je crois que nous sommes tout ce qu'on peut appeler le peuple de droite confondu, la majorité des Français. Et cette majorité doit être non seulement maintenant, elle a été fracassée. Hein. Chirac a parlé de la fracture sociale, c'est rien à côté de la fracture qu'a subi la France dans la nature profonde, le sentiment sentiment profond que les Français ont de l'ordre de la nation, de la patrie, et de ce qu'ils peuvent en recevoir et de, aussi de ce qu'ils doivent lui donner et de comment doit-elle continuer à survivre dans le monde de demain. Et je crois là, il faut, si nous voulons laisser continuer la démagogie, le terrorisme intellectuel complet que nous subissons par l'idéologie socialo-communiste, bon ben, on n'a qu'à continuer de se battre les uns contre les autres. Moi, j'ai été frappé parce qu'on parle de la droite à Paris. Bon, autrefois, il y avait une droite à Paris. Moi, quand j'ai commencé d'écrire mon bouquin en 98, j'ai commencé à travailler dessus, il y avait une droite à Paris, il y avait un Front National, il y a eu ensuite un RPF. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un FN, on a un MNR. La droite se déchire à Paris, c'est un spectacle tellement pitoyable que ça, vraiment, ça vous arrache le cœur quand on a encore quelque part un sentiment de l'honneur, de quelque chose, et de sauver Paris des griffes de la gauche, parce qu'on sait malheureusement ce qui peut arriver. Le RPF, c'est absolument consternant de voir M. De Villiers se précipiter, c'est le juge, pour témoigner contre M. Pasqua. Mais où allons-nous? Est-ce qu'une attitude comme ça est digne de Français qui, par ailleurs, veulent prétendre défendre la nation, quelque chose? Moi, je suis absolument consterné.
Le
vraiment,
Gallou a été
je suis très pessimiste.
Je l'ai trouvé très sévère à propos de Villiers. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Je trouve ça plutôt rigolo.
Oui, mais écoutez,
Villiers dit Pasqua, il y en a marre maintenant. Il faut manger.
Sauf que Villiers a fait alliance avec Pasqua.
Oui, voilà.
Pour sauver son siège et le siège de ses amis au Parlement européen, parce qu'il n'était pas en mesure de faire une liste tout seul. Quand il a fait alliance avec Pasqua, il savait quand même que Pasqua n'était pas un perdreau de l'année ni un brevet de vertu. Il savait que Pasqua avait déjà été très gravement mis en cause par la Chambre régionale des comptes, dans une affaire liée à Elf, d'ailleurs, mais c'était déjà public à l'époque, hein, en 99, l'affaire Tinet, un terrain qui a en 8 jours
multiplié par 10.
Été multiplié par, a vu sa valeur multipliée par 2, bien à hauteur entre 200 et 400 millions, hein. Bon, pas pour rien. Donc, il le savait. Et puis, quand pendant la campagne européenne, moi je sais quand même ce que c'est que de faire de la politique sans argent. Bon, je sais aussi que quand même qu'on garde.
Qu'est-ce que vous avez demandé à Mme Mardoloni?
Bon, quand vous voyez arriver dans la campagne européenne, 15 millions. 15 millions, c'est quand même pas rien. Qui arrive de quelqu'un qu'on a mis en 25e ou en 55e position et qui sont résidents au Gabon ou à Monaco. Je trouve qu'on doit déjà se poser des questions. Alors, Villiers savait parfaitement, quand il a fait entente avec Pasqua, que c'était quand même un type qui avait une conception particulière de la rigueur financière, pour ne pas en dire davantage. Alors, je trouve qu'après en avoir profité, maintenant, il dit, mais c'est épouvantable, j'ai découvert des choses, écoutez.
Mais vous savez bien comment ça se passe dans les grandes familles, quand on va passer les vacances à la campagne.
C'est une dame de petite vertu qui voudrait faire croire qu'elle a retrouvé sa virginité. Voilà,
j'ai pas autre chose, Villiers. Écoutez, quand on passait les vacances dans les maisons familiales, on a tous connu ça, à la campagne, il y avait tous les cousins qui étaient là, vous aviez 12 ou 15 cousins. Alors, il y en avait un qui allait piquer un pot de confiture, on mettait tous la main dedans. Mais quand on se faisait choper, on disait, c'est pas moi qui ai piqué la confiture, c'est le cousin Jules. Mmh. Et le cousin Jules avait piqué le pot, mais on avait tous bouffé la confiture.
Voilà, bah c'est ça, oui.
Bon, mais pour pas avoir la fessée, on disait, c'est le cousin Jules qui a volé. Et celui qui était puni, c'était pas celui qui avait mangé la confiture, c'était celui qui avait volé le pot.
Non, bah, si vous voulez, bon, moi je défends pas Pasqua parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai combattu Pasqua comme élu régional au conseil régional et dans les Hauts-de-Seine. Bon, donc, et je veux dire, Pasqua il est comme il est, on le sait. Je trouve que Villiers, qui s'était présenté comme un défenseur des valeurs morales, a eu tort de faire alliance avec Pasqua, et ayant fait alliance avec Pasqua, ayant vu ce qu'il a vu en 99 et en ayant profité en 99, je trouve que c'est pas quand même une élégance extrême.
Non, c'est le droit à repentir.
Vous êtes bien charitable. Voilà, donc j'ai voulu mettre par un communiqué effectivement un petit peu vif la contradiction entre quelqu'un qui a profité de l'argent de Pasqua et qui maintenant, parce que en 99 l'argent de Pasqua il le trouvait sans odeur, hein.
Absolument.
Et puis maintenant, il trouve sale. Alors, c'est quand même le même argent.
Oui, voilà. Oui. Et alors qu'il se retire.
Je voulais dire, bon, mais je sais qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait sincères.
Non, mais qui se retire
chez les Villiéristes. Bah, je trouve que Villiers, là, n'est pas
d'une clarté totale. Parce que là, la moindre des choses, ça serait de démissionner en disant.
Oui, bah, les députés européens Villiéristes peuvent démissionner plutôt que de porter une écharpe qui ne doit pas sentir très bon.
T'as qu'à croire, Grégoire.
Non, mais regardons ce qui se passe à gauche, avec des scandales qui concernent des sommes encore beaucoup plus importantes dans des affaires encore plus sombres et plus encore plus secrètes. On n'a pas ces mêmes problèmes relationnels entre les personnes. À gauche, on sait fermer les portes, on sait fermer les fenêtres, on sait être discret et puis ça se passe mieux. Et finalement, c'est toute l'opinion publique qui a une mauvaise image, même si certains peuvent en profiter de Pasqua, de Villiers, etc. Mais c'est toute la droite quand même qui paye la facture. Voilà, alors, c'est toute la droite qui paye la facture par rapport à une gauche qui sait très bien manipuler et qui en fait beaucoup.
Mais alors, si vous me permettez, il y a quand même eu un tournant dans les affaires, à la fois avec l'affaire des lycées d'Île-de-France que j'ai suivi depuis 10 ans. En tant que président
de groupe de la région, vous avez été un des artificiers
à l'époque, président du groupe Front National, aujourd'hui président du groupe MNR avec Maigret, mais une affaire que j'ai suivie depuis 10 ans avec mes collègues d'ailleurs. Le jeu est plutôt un nous collectif. Mais ce qui apparaît dans cette affaire, comme dans l'affaire d'ailleurs Pasqua, et qui est quand même, je dirais, particulièrement révélatrice du système et troublante pour les électeurs, c'est que l'affaire de la Sofremi. Vous voyez main dans la main Pasqua et le clan Mitterrand, et la famille Mitterrand. Et l'affaire des lycées d'Île-de-France, c'est l'organisation d'un racket à hauteur de 600 millions de francs. Donc ça commence à devenir 100 millions de francs lourds, c'est-à-dire l'équivalent de six lycées, l'équivalent de la construction de 6 lycées. Un racket organisé par le RPR qui redistribue au PS.
Bon, moi, pour qu'il se taise.
Écoutez, il y a d'ailleurs une chose qui n'a encore été dite nulle part, parce que cette affaire, et je veux dire, nous, les rapports, on les a vus passer sur les lycées. Quand vous lisiez les rapports, vous voyez qu'il y avait l'entente entre les entreprises. La simple lecture des rapports, c'était évident. Donc, on n'a pas eu beaucoup de mérite à le dire, en 92. Eh bien, il y avait l'entente avec les entreprises, et l'entente entre les entreprises camouflait l'entente entre les partis politiques. Et pourquoi le PS a été associé? Le PS a été associé parce qu'à l'époque, il était au gouvernement, et que à la commission des marchés siégeait le représentant du trésorier payeur général, siégeait le représentant du préfet. Et que pour que le représentant du préfet et que le représentant du trésorier général ne voient rien, il fallait qu'il y ait une autorité politique qui leur dise ne voient rien.
Mais à l'époque, si d'ailleurs, je me souviens bien,
le préfet de la région de France, c'était pas n'importe qui, c'était M. Sauter, qui vient du cabinet de Mitterrand et qui est aujourd'hui candidat socialiste.
Il est évident que l'affaire
n'a pu se faire que parce que Sauter n'a pas voulu voir ce qui éclatait au nez du visage. Et nous l'avons averti à l'époque, avec d'ailleurs le collègue Robert Emmerdinger et quelques autres, on lui a dit arrêtez ces marchés. On l'a saisi, on avait même saisi à l'époque les...
On vous a dit à ce moment-là, on vous a dit, écoute, arrête, tu sais très bien que c'est pas à ce niveau... Enfin, quand vous en avez parlé, je crois savoir ça, au Conseil régional, quand vous avez tenté d'obtenir une réaction des élus, un élu de je ne sais quel parti est venu vous voir en disant c'est pas la peine de faire ce numéro, tu sais très bien que c'est pas à notre niveau que ça se décide.
Oui, absolument, oui, tout à fait.
Donc c'est quand même extraordinaire cet aveu.
Oui.
Un élu régional qui vient vous dire, quand on vote les crédits pour une opération aussi énorme que les lycées d'Île-de-France, c'est pas à notre niveau que ça se passe, la décision est prise au niveau des états-majors, au niveau de l'administration et au niveau des représentants des entreprises.
Oui, et là, si vous voulez, ce qui est
donc
quand
c'est
même,
bien des méthodes de mafieux.
Ce qui est quand même extraordinaire dans cette affaire, c'est ça qui choque quand même beaucoup les gens. C'est que, si vous voulez, à la limite, l'électeur RPR, il est indulgent et il peut comprendre à tort que le RPR magouille pour se financer. Mais que le RPR prélève de l'argent pour en donner une partie au PS, Ça, c'est quand même parce que ça prouve l'entente politique.
Et réciproquement.
Hein, et l'entente politique, c'est-à-dire la concurrence faussée. Et quand la concurrence politique est faussée, eh ben, qui est trompé dans l'affaire, c'est l'électeur. De même que quand la concurrence est faussée entre entreprises, c'est le consommateur qui est faussé, qui est trompé. Et là, dans cette affaire, l'électeur et le contribuable a été trompé. Mais je crois que c'est vraiment le plus grave dans les affaires, c'est l'espèce de binôme RP-RPS sur les lycées et Pasqua Mitran sur les ventes d'armes et la Sofremie, qui est une institution quasi, une entreprise quasi publique. Alors,
Jean Sonnet et Jean-Yves Le Gallou, je vous propose de donner la parole aux auditeurs, parce que les questions s'amassent, ça devient vraiment pléthorique.
Les questions et les commentaires.
Et vous posez les questions, Victoria ?
Oui.
Oui, vous lisez les commentaires, vous posez les questions et chacun répond s'il le veut.
Alors, parlez-nous, monsieur Le Gallou, parlez-nous des élections municipales à Paris, des listes et du programme MNR.
Oui.
Après. Eh ben, écoute, mais
Vous lisez, d'accord.
Et puis vous les prenez après. Alors, le MNR, m'a-t-on dit, aurait l'intention de s'allier dans les élections municipales avec les droites réactionnaires et bourgeoises. Cela est intolérable. Le MNR doit rester lui-même, c'est-à-dire identitaire, national et européen. Ni droite, ni gauche, vive le nationalisme européen. On est désolé de vous entendre taper sur des personnes qui sont tout de même proches de nous et sans lesquelles il n'y a aucune possibilité de victoire. Assez de division, travailler à l'union. Vous voyez, vous avez toutes les opinions les unes entre les autres. Ce n'est pas parce que la droite nationale s'est coupée en deux qu'il ne faut pas voter pour elle. Si vous voulez que ça change, qu'est-ce que c'est que ces Français qui ont peur ? Alors qu'ils ne viennent pas se plaindre après. Excellente idée de mettre la statue de Sainte-Geneviève sur votre carte de vœux électorale. Mais vous auriez dû inclure sur la photo, en l'élargissant, l'Institut du monde arabe qui s'est dressé juste en face pour défier Sainte-Geneviève et la France française. J'avais envoyé il y a quelques années une telle photo au Libre Journal et M. de Beketch l'avait traduite en paroles.
Bah, je retiens l'idée pour l'année prochaine, peut-être. Alors.
J'ai été agressée 3 fois sur la ligne Paris-Mantes-la-Jolie. À l'accueil de la gare, on m'a répondu « c'est comme ça, il faut vivre avec sa peur, on n'y peut rien ». J'ai des enfants travaillant en service hospitalier à Versailles et Créteil, nous dit cette auditrice. Ils leur reçoivent de plus en plus de blessés graves à la suite d'agressions. Et il semblerait que ces blessés passent par un service spécial pour ne pas effaroucher les malades. Samedi dernier, dans la cité HBM Chaufournier Bolivar dans le 19e, des vigiles ont expulsé une quinzaine d'enfants noirs armés de bâtons. Ces enfants avaient environ une douzaine d'années. Que pensez-vous de ce qu'on nous annonçait hier à la télé ? Les Français n'ont jamais été aussi heureux. Il paraît que c'est un record. Et puis alors ça, c'est un auditeur aimable qui dit « La preuve que les Français sont abrutis, c'est que Victoria ne veut pas l'admettre. » Alors on vous demande pour la suite, bien. Monsieur Le Gallou, peut-il nous dire ce qu'il pense des actions proposées par Monsieur Chabanis? Et puis pendant, alors puisque vous notez les choses, des questions pratiques. Où peut-on s'adresser pour avoir l'adresse du MNR dans le Val d'Oise? Je ne sais pas où m'adresser, je cherche l'adresse d'une personne à La Frette-sur-Seine. Ben, c'est très précis ça. Et puis pour le MNR au mois de mars, quel sera le candidat à Boulogne-Billancourt?
Bon, à Boulogne-Billancourt, ce sera Monsieur Pichon.
C'est très bien.
Voilà. Olivier Pichon, je réponds globalement.
Oui.
Enfin, il y a beaucoup de choses que je partage tout à fait dans ce qui a été dit. Je voudrais simplement répondre, effectivement, sur le plan politique. Bon, il y a différentes manières de faire avancer ces idées. Et je ne crois pas que les unes soient exclusives des autres. Je crois quand même qu'il y en a une qui est de voter. Par conséquent, je ne peux qu'encourager les électeurs à voter pour les élections municipales et cantonales, puisqu'il y a les deux le même jour, le 11 et le 18 mars. Évidemment, je les incite à voter pour des listes MNR, qui seront très nombreuses aux municipales et aussi aux cantonales, mais si ça leur plaît pas, ou si dans tel ou tel endroit il n'y en a pas, eh bien, de voter pour un autre candidat national s'il y en a. Moi, je suis soucieux du succès de l'ensemble du courant national. C'est un peu pour ça que nous allons à cette bataille dans une démarche où nous posons nos candidatures pour les municipales avec nos 400 listes, nous posons nos candidatures au cantonal avec nos 1300 candidats, mais nous ne sommes pas fermés à des accords avec d'autres forces, pour peu qu'il y ait un minimum en commun en ce qui concerne les idées nationales et le programme, bien entendu. Par conséquent, nous allons sous nos couleurs, mais sans être fermés à des accords éventuels avec d'autres, au premier ou au deuxième tour.
Avec la bourgeoisie réactionnaire, vous avez entendu ?
La bourgeoisie réactionnaire, mais bon, je veux dire, à partir du moment où il peut y avoir des endroits où il peut être justifié de faire des alliances de deuxième tour avec d'autres qu'avec soi-même. Enfin, le problème ne se pose pas actuellement. Le premier problème, c'est de constituer des listes, de se présenter devant les électeurs et ensuite de voir le résultat. Mais je crois qu'il faut... c'est vrai qu'il peut y avoir des réalités qui sont un peu désagréables, mais ça ne doit pas conduire au découragement. Et en tout cas, moi, je crois qu'il faut voter. Moi, je souhaite évidemment que les gens votent pour nous. Mais s'ils en préfèrent d'autres, ou si dans certains endroits nous ne sommes pas là, parce que c'est vrai, quand je dis que nous serons présents dans 400 listes au municipal, il y a des endroits où nous ne serons pas, qu'ils fassent au mieux dans ce cas-là. Mais je crois que c'est pas un bon système que de dire je me retire sous ma tente. Alors à Paris, eh bien, je conduirai 20 listes dans les 20 arrondissements.
C'est après l'élection que les Parisiens vont retirer sous leur tente.
Pardon, oui, peut-être, oui. 20 listes dans 20 arrondissements avec un programme qui est assez, qui a le mérite, je crois, d'être explicite. Paris français, immigration zéro, parce que je crois que c'est véritablement le problème principal de Paris, c'est celui de son identité française, identité de ses rues, identité de ses commerces, identité de ses écoles, identité de son architecture, identité de ses cultes, identité de sa culture, et j'en passe. C'est ça le problème principal. Donc voilà, notre programme, il est très simple. On a aussi des propositions sur la circulation, mais c'est pas la patinette à tous les étages, et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est Paris français, immigration zéro.
Une question supplémentaire. Comptez-vous rester divisé avec le Front National? Allez-vous vous entendre avec les gens du Front? J'ai aimé votre phrase, nos amis du Front, cela m'a fait chaud.
Oui, mais moi, vous savez, je suis prêt à m'entendre demain. Mais pour s'entendre, il faut être deux. Je vais vous dire, ce serait, s'il y a des gens qui pensent que l'entente est souhaitable, vous savez, moi je passe 48 heures avec Monsieur Lang, Karl, pas Jacques, ou avec Monsieur Gollnisch, on pourrait très bien, non pas que chacun renonce à être ce qu'il est, mais régler un certain nombre de problèmes et de concurrence. Simplement, encore faudrait-il qu'ils en aient l'autorisation. Mais nous avons proposé l'union dans un certain endroit, nous l'avons pratiqué. Nous soutenons Bompard à Orange, nous soutenons le Chevalier à Toulon, nous soutenons des caves à Noyon, et j'en passe. Nous sommes tout à fait ouverts à l'union. Je vais vous dire, sur Paris, l'union aurait aussi été possible. Encore faut-il. Être deux, hein. Donc moi, mon téléphone est toujours disponible, mais évidemment,
ouais, parce que j'ai essayé de vous appeler tout à l'heure, j'ai pas pu vous avoir.
Oui, mais bon, j'étais à 3 minutes de voiture, donc je pensais traiter en direct, cher Serge.
Dites-moi, pour revenir à des considérations moins immédiates, un auditeur qui donne son nom, Tanguy, demande que pensez-vous du retour naturel du loup dans l'arc alpin et des problèmes que ça pose. Voilà, moi, une question que j'ai envie de vous poser.
Ah oui, mais alors, on est loin de Paris. C'est une question sur laquelle, franchement, j'aime pas trop les réponses dites de Normands, encore que ce soit très, très péjoratif vis-à-vis de cette région. Mais je dois dire que je suis un peu partagé, parce que bon, c'est vrai que le loup est un animal qui a une certaine allure. Je suis quand même pas tout à fait sûr.
Il y a des chacals dans les banlieues pour bien avoir des loups.
Oui, je suis pas tout à fait sûr que ce soit compatible avec l'élevage des brebis, en tout cas avec l'élevage des brebis tel qu'on le pratique actuellement. Voilà, mais c'est une réponse de Normand, donc ça me satisfait pas tellement.
Je vais creuser la.
Oui, c'est plutôt dans les Alpes du Sud quand même. Ça arrive par l'Italie. Bon, j'espère que cet auditeur et les auditeurs me pardonneront cette réponse un peu mi-chèvre, mi-chou, si j'ose dire, ou mi-brebis, mi-loup. Et je vais essayer de creuser ma réflexion sur la question.
Combien ça coûte une brebis? Est-ce que quelqu'un sait ce que coûte une brebis ici? Vous, Steen, vous savez pas ce que ça vaut? Alors, pourquoi ça sert d'être policier municipal si on connaît pas le prix des brebis?
Bah non, mais
quand
j'égorge pas les brebis dans
sur votre territoire. Bah oui, mais quand on le fait. Vous connaissez Jean-Yves Le Gallou, Philippe Steen, qui est secrétaire général adjoint d'un syndicat de policiers municipaux, et qui vit donc, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir ce soir, au contact permanent dans les territoires occupés.
De la dure réalité, oui. Oui.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous rencontrez un responsable politique comme Jean-Yves Le Gallou? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Quel message vous avez envie de faire passer, vous eu égard à la fonction sociale que vous occupez? C'est le métier de policier dans les territoires occupés, c'est pas rien quand même.
Non, mais ce que j'ai envie de dire aux hommes politiques, c'est que la situation empire de jour en jour, contrairement à ce qu'on entend partout. Tout à l'heure, j'ai pris un excitant pour pouvoir regarder l'Assemblée nationale, et il y avait Monsieur Vaillant, qui est ministre de l'Intérieur.
C'est vraiment le mal nommé.
On le voit pas souvent, hein. C'est bon, il est pas très bon. Ça change de chevènement. Vous voyez, tout le temps il s'agitait, donc on l'entend pas. Et il y avait un député de l'opposition qui lui disait que dans les trains, la sécurité avait augmenté de 13,9%. Réponse du ministre. Il y a eu une légère augmentation de l'insécurité dans les trains. 13,9, c'est pas rien.
Et alors, quand ils augmentent le SMIC de 0,4%, ils considèrent que c'est une augmentation formidable.
C'est extraordinaire. J'ai les chiffres sur Paris. Il faut savoir que sur les vols avec violence, ils ont augmenté de 16,32%. Les vols à main armée de 26,39%. Tout fait confondus, criminels constatés, 4,4%. La part des mineurs mis en cause augmente pour atteindre 22,5% d'ensemble. Les hold-up, plus 120% pour les bords de France.
C'est-à-dire que sur l'ensemble des délits, il y en a 22%, pratiquement un quart. Un délit sur quatre est commis par des mineurs.
Ah oui. Oui, mais c'est
des. Et d'où ils viennent ces mineurs? C'est des mineurs du Nord ou des.
Mineurs du Sud plutôt.
Plutôt du Sud.
Plutôt.
Deux fois sur trois, hein, ce sont des.
Disons,
délinquants issus des mineurs.
Et il y a encore plus inquiétant, il y a une augmentation de 45,7% des agressions sexuelles.
Combien?
45,7%.
Bon. On va peut-être faire des distributions de bromure. Alors, on avait parlé de mettre du fluor dans l'eau des villes. On pourrait peut-être plutôt mettre du bromure pour calmer tout ce monde. 45%, ça fait beaucoup.
Alors, j'ai promis de parler.
Et en plus, le tueur de l'Est parisien est en prison. Donc,
j'ai promis de parler de M. Séguin, parce que M. Séguin, il a parlé dans le journal du dimanche, là. Alors, c'est assez fort. Donc, il existe un sentiment d'insécurité latent. Donc, il n'y a pas d'insécurité.
C'est exactement ce que disait Badinter.
Voilà.
Mot pour mot.
Etc. Donc, il blablate et il propose de créer une police municipale à Paris. Alors, jusque-là, bon, on se dit c'est pas mal. 5 ou 6 000 agents non armés, déjà. Il est courageux avec le courage des policiers.
Ça, c'est comme les loups et les brebis, là.
Oui, mais c'est typique des hommes politiques, ça. Ils précisent que leur police municipale ne sera pas armée. Eux, ils s'en fichent, je sais pas où ils se font descendre. Mais comme ça, ils sont contents, ça leur plaît, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est.
Quand Séguin fait campagne à Paris, combien il y a de policiers autour de lui pour assurer sa protection?
Combien
il y en
a autour de lui?
Oui.
Ça, j'en sais rien.
Je sais pas.
Il va y en avoir quelques-uns quand même.
Parce que je me souviens d'un dessin de Kong qui était absolument magnifique, vous vous rappelez?
Oui.
Où Mitterrand et Jox, je crois, étaient dans une voiture blindée, entourés par à peu près 350 motards et policiers, et ils traversaient à 240 à l'heure une cité.
Tout est calme.
Et l'un disait à l'autre, bah, tout est calme, ici je vois pas pourquoi ils nous disent qu'il y a de l'insécurité dans ce pays. Donc je pense que Séguin, s'il se promenait tout seul, il veut.
Mais Séguin, c'est encore plus. J'ai terminé avec Séguin parce que donc il propose que la police municipale pratique les otages. La circulation, les carrefours, sortie des écoles, enfin des missions de basse police entre guillemets. Et surtout, quelque chose d'important, il veillerait à la propreté, il pense aux déjections canines. Alors, je voudrais dire à Monsieur Séguin, quand même.
Mort au chien.
Au rythme où il va, c'est lui qui ira dans le caniveau, de toute façon. Je voulais quand même lui faire passer ce message, parce que ça m'a énervé quand j'ai entendu ça.
Je crois qu'il y est déjà, vous savez.
Oui, oui. J'espère.
Ben c'est normal, mais c'était pour élever vos chiens, comme disait la chaîne.
Donc, et il termine en disant entendons-nous. Il insiste donc bien. Il ne s'agit pas d'accroître la répression. Donc en fait, l'idée
de leur mettre des couches culottes.
Ben, l'idée de ces gens-là, c'est de créer des espèces de bobbies. Donc je dis rien contre les bobbies, c'est des policiers très respectables. Mais allez, à un moment où on devrait s'inspirer du modèle new-yorkais, appliquer la tolérance zéro et matraquer les salopards qui se fichent de nous, parce que plus on est gentil avec eux, mais ça c'est dans la culture de l'islam, hein, de toute façon, énormément sont musulmans, quand il y a de la mansuétude, ils nous méprisent, ils respectent la force.
Ils respectent l'autorité, il n'y a même pas que les musulmans.
Ils respectent l'autorité, non mais je sais.
C'est une donnée constante.
C'est typique chez eux. Et eux, au lieu de faire une police à la new-yorkaise, ils veulent faire une police à la reine Victoria, avec des bobies tranquilles.
Tout à l'heure, Jean-Yves Le Gallo nous disait que la population parisienne, aux yeux des hommes politiques, est constituée de bobos. Et c'est normal que pour les garder, ils proposent des bobies. Il y a une espèce de logique sémantique là-dedans qui me paraît tout à fait raisonnable.
Donc je veux dire aux Parisiens qu'ils risquent de payer, si M. Séguin est élu, ils paieront 5 ou 6 000 policiers qui serviront quasiment à rien. Puisqu'ils ils seront au carrefour et ils s'occuperont des élections canines. Voilà, donc c'est. Ils font comme ils veulent.
C'est un programme qui ne vous convient pas.
Bah, non.
Vous n'avez pas envie d'être au carrefour à ramasser les crottes de chiens?
Faire les deux en même temps, ça va être difficile, mais ça ne me tente pas, je sais pas. Non, vraiment.
La solution, ça serait de faire faire leurs besoins aux chiens au carrefour, au milieu du carrefour. Ça ferait rapidement diminuer la population canine de la capitale. On fait la pause technique et puis on reprend le débat avec Chabalis qui va peut-être nous rejoindre.